Zanzibar à Limoilou. De Bamako à Lévis. De Ushuaïa à Québec. De Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la Terre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission d'À nous la Terre. Salut TP.
Salut Simon.
Cette semaine à l'émission, on parle de progrès technologique, de cybernétique et de règne machinal avec des camarades de pièces et main d'œuvre. Un groupe d'enquête politique et technocritique situé à Grenoble, en France. Vous écoutez À nous la Terre. La pandémie de la COVID-19 a contribué à l'accélération du déploiement des dispositifs de la haute technologie. Télétravail, réalité augmentée, applications mobiles, réseau 5G, appareils de surveillance, robots travailleurs, passeports numériques et villes soi-disant intelligentes. Certaines entreprises de la haute technologie affirment même avoir fait un bond de 10 ans en termes de recherche et développement pendant ces deux dernières années. L'industrie 4.0 a vu dans cette crise une opportunité d'accroître son emprise sur nos vies en déployant une panoplie de dispositifs de contrôle et de surveillance pour s'immiscer encore plus profondément dans nos intimités et se rapprocher de plus en plus des faits et gestes de nos corps. Le tout tandis que toute l'attention médiatique est rivée sur la gestion du virus et qu'on nous fait croire que la seule réponse normale soit technologique. Mais ce resserrement de la techno-industrie n'est rien de nouveau. Vers la moitié du 20e siècle, l'historien américain Lewis Mumford parlait de la méga-machine pour désigner cet ensemble organisationnel qui allie les industries, l'État, les technocrates, les sciences et les forces militaires. Depuis, cette méga-machine n'a fait que renforcer son emprise en contribuant à l'effacement des savoirs territoriaux, l'aliénation et la robotisation du travail, la création de nombreux systèmes de dépendance, l'implantation de structures hyper-hiérarchisées et la poursuite des activités extractivistes contribuant au ravage de la Terre. Alors que la catastrophe écologique s'accélère, il nous semble que la question de la technologie devrait apparaître au cœur des nombreux maux qui affectent la Terre. Pourtant, on continue d'en faire la promotion et de la déployer comme s'il s'agissait d'une réalité qu'il nous est impossible de questionner. Sa capacité à s'emparer de nos désirs est spectaculaire. Elle apparaît tantôt sous le couvert de la santé publique, tantôt la sécurité et de plus en plus l'écologie. Mais comment se déploie concrètement cette méga-machine? Sur quelle base s'organise-t-elle? Quelles en sont les répercussions? Comment se défaire de son emprise et canaliser d'autres formes de désirs que ceux qui nous sont promis par ce monde de haute technologie? Ce sont là quelques questions que nous tâcherons d'aborder aujourd'hui avec pièces et main d'œuvre.
Merci à vous deux. Vous êtes donc deux membres du groupe d'enquête politique et technocritique pièces et main d'œuvre situé à Grenoble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste le travail et les réflexions de pièces et main d'œuvre?
Eh bien, pour le résumer en un mot, c'est l'enquête. Et pour, si tu veux deux mots, c'est l'enquête critique. Bon, alors enquête, comme on dit histoire. Tu sais que le père de l'histoire, Hérodote, le grec, est appelé le père de l'histoire parce qu'il a écrit un livre, le premier livre d'histoire. Mais en grec, on ne dit pas l'histoire, on dit l'enquête. C'est le même mot. Donc, quand tu enquêtes, ça te permet de faire de l'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Donc, tu es toujours en train d'enquêter parce que tu es toujours en train de courir derrière l'histoire. Et tu es obligé de courir pour essayer de comprendre le monde dans lequel tu vis. L'enquête te permet de voir si tu es à peu près synchrone le monde dans lequel tu vis, le monde dans lequel tu as vécu, mais elle n'est pas, prospective. Elle ne te permet pas de dire dans quel monde tu vas vivre. Elle te permet juste, au mieux de tes capacités, d'être synchrone avec ton temps. Donc, ce que nous avons essayé de faire, après bien des historiens et bien des critiques, critique, ça veut dire faire le tri, hein, on y reviendra. Ce que nous avons essayé de faire, c'est en partant de là où nous vivions, ça c'est important, en partant de là où nous étions et en partant de ce que nous étions, d'essayer de reconstituer notre histoire, l'histoire de notre ville et l'histoire de notre temps. un petit peu de la même façon que si tu trouves, mettons que tu sois paléontologue, tu trouves un os. Bon, à partir de cet os, tu vas reconstituer l'anatomie d'un, je ne sais pas, d'un dinosaure, son squelette en tout cas. À partir de son squelette, tu vas reconstituer son régime alimentaire et ainsi de suite. Bon, c'est ce que nous avons tenté de faire pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivions. Parce que comprendre le monde dans lequel nous vivions, c'est la condition éventuelle pour pouvoir, j'allais dire, changer ce monde. Mais malheureusement, il change beaucoup. Mais en tout cas, nous sauver, nous, dans ce monde où nous sommes jetés. Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire.
Et parlant du lieu à partir duquel vous faites vos enquêtes, en fait, vous êtes situé à Grenoble, un endroit que vous positionnez vous-même au cœur de la méga machine française, notamment pour le rapport historique et techno-industriel que cette ville a développé autour de l'eau. Pouvez-vous nous parler un peu de ce processus d'innovation technologique qui a mené à la mise en place de la méga machine grenobloise?
Oui, c'est vrai qu'on partait pas de n'importe où, on partait de Grenoble, et qui est une ville, on a souvent parlé dans la sociologie et l'histoire en France du laboratoire grenoblois. Ça tient à l'histoire locale et l'histoire tient aussi à la géographie, c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'eau qui est la matière première à Grenoble, parce qu'on est entouré de montagnes, hein, tout simplement. Jusqu'au 19e siècle, c'était une petite bourgade enclavée dans les montagnes qui vivait un peu des tanneries, un peu du vin et des garnisons militaires qui étaient stationnées là. Et c'est tout, avec beaucoup de paysans autour, évidemment. Et sont arrivés des ingénieurs qui avaient au départ des papeteries au bord de l'eau et qui ont eu l'idée, notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Aristide Bergès, qui en 1869 a équipé la montagne de la première conduite d'eau qui a permis de faire tourner ensuite des turbines. Et donc, il a inventé ce qu'on a appelé la houille blanche, c'est-à-dire l'hydroélectricité, quoi, hein, qui doit vous parler à vous autres Québécois aussi. Et ayant donc à la maison, en quelque sorte, une source d'électricité abondante et assez facile finalement à produire, eh bien, il a entrepris avec ses collègues ingénieurs d'électrifier absolument toute la région, au point qu'on a souvent entendu parler de paysans dans la montagne qui vivaient dans des fermes en terre battue, mais qui avaient une ampoule avec la lumière, quoi. Bon, alors que c'était au 19e siècle déjà. Donc de ce démarrage-là est né ensuite tout le développement techno-industriel de la ville de façon télescopique, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est comme un secteur, on en entraîne un autre. Et donc, de l'électricité, on a développé l'électrométallurgie, la chimie, grâce à l'électricité, bien sûr. Puis ensuite, on a eu l'électromagnétisme. Le commissariat à l'énergie atomique est venu s'installer à Grenoble parce qu'il y avait ce terreau-là, on peut dire. Alors, ce qu'il faut dire pour expliquer ça, c'est que tout de suite, les ingénieurs qui avaient inventé ces procédés, ils se sont vraiment... Ils se sont beaucoup agités pour pouvoir avoir des ingénieurs et des employés qui soient formés. Donc, ils ont tout de suite été voir les pouvoirs publics locaux et nationaux en disant « il nous faut des écoles d'ingénieurs ». Et ce qu'ils ont créé, c'est ce que maintenant tout le monde connaît sous le nom de liaison recherche-industrie, c'est-à-dire le fait que depuis le début à Grenoble, travaillent main dans la main l'université, les industriels, les pouvoirs publics et l'armée. Et tout le monde... travaillent vraiment, enfin, ils ont tous, en plus, très souvent les trois ou quatre casquettes en même temps. Hein, les élus sont beaucoup des ingénieurs et réciproquement, à commencer par Aristide Bergès, d'ailleurs, hein, le premier d'entre eux, il s'est fait élire rapidement. Et les maires de Grenoble, depuis 40 ans, hein, c'est tous des ingénieurs. Et les villes autour aussi, c'est pareil. Et donc, après l'électro... magnétisme est arrivé donc le nucléaire avec le commissariat à l'énergie atomique qui s'est installé à Grenoble dans les années 50, qui depuis est vraiment le moteur du développement techno-industriel de cette ville. Le commissariat à l'énergie atomique, il a produit des dizaines et des dizaines de start-up et d'entreprises, parce qu'avec les recherches publiques, on crée des entreprises privées, ça fait partie vraiment de la liaison recherche-industrie. Et donc, on est maintenant au stade les dernières vagues, disons, de ce développement télescopique, c'est la micro-industrie, la microélectronique, pardon, les semi-conducteurs, c'est les nanotechnologies, très important, premier pôle européen nanotechnologie, les biotechnologies, et puis les neurotechnologies aussi, tout ce qui tourne autour du cerveau, tout ça étant en constante ébullition, on est tout le temps soumis à à la fois une propagande, parce que nous devons, la ville doit sa prospérité à cette activité technoscientifique, évidemment. De ce fait, l'essentiel de sa population vit de ça. Et donc, on vivait pendant longtemps dans un consensus. Grenoble, c'était la ville des scientifiques, quoi. Hein. Et il y avait un consensus là-dessus. Quand on est arrivé, alors avant nous, il y a eu déjà des vagues de protestations, notamment autour du mouvement nucléaire, etc. Mais,
anti-nucléaire.
Anti-nucléaire, mais donc nous, on a commencé il y a 20 ans de ça. On a eu l'impression de cracher dans un bénitier, on pourrait dire ça comme image éventuellement, mais en tout cas de commettre un blasphème. Vraiment, c'était on ne critiquait pas la technoscience à Grenoble, quoi.
Ben, on peut faire de nombreux parallèles, comme vous le disiez, avec l'hydroélectricité au Québec. Effectivement, c'est aussi une des entités saintes en fait de l'histoire du Québec, parce que c'est à travers le déploiement de l'industrie hydroélectrique que comme on se raconte, le Québec a affirmé la souveraineté de sa nation qui avait récemment eu accès à la majorité politique, disons, qui s'était délivrée du règne du Canada anglais. Et ça s'est fait à travers le déploiement des barrages hydroélectriques, à travers l'électrification nationalisée de l'industrie grâce à cette ressource-là. Ce modèle-là qui est né en Occident, il s'est aussi répandu rapidement sur l'ensemble des continents, c'est pas juste en France ou au Québec. Aujourd'hui, comment ça s'organise pour vous, cette méga machine-là qui a un point d'attache à Grenoble? À travers quel genre de dispositif est-ce que vous la voyez se déployer à l'échelle planétaire?
Alors, tu poses beaucoup de questions en peu de mots, là. Mais on va faire le tri, hein. Bon, d'abord, ce qui m'a intéressé dans ce que tu viens de dire, c'est quand tu fais le parallèle avec Québec et la façon d'affirmer l'espérance de souveraineté québécoise grâce à l'industrie et à l'hydroélectricité. Là, tu touches quelque chose de très juste. L'industrie, la machine, c'est une question de puissance. Pourquoi on fait des machines? Pourquoi on fabrique des machines? Est-ce que c'est des moyens? C'est des moyens de quoi? C'est des moyens d'atteindre des objectifs. Et l'industrie, c'est beaucoup de machines et beaucoup d'objectifs atteints, c'est beaucoup de puissance. Ce qui t'explique pourquoi tout le monde en fait. Tu prends une entreprise. Une entreprise qui renonce à innover et à se mettre à l'avant-garde, elle va perdre des parts de marché, elle va disparaître. Un État qui renonce à soutenir son industrie et avoir une industrie d'avant-garde, renonce à la puissance, va disparaître. Pour te dire que la rivalité entre les États-Unis et la Chine, elle n'est pas presque éteinte en ce moment. Et c'est tout le temps la puissance, la recherche de la puissance, la volonté de puissance qui est le moteur de l'affaire. Non, tu auras des gens pour te dire non, pas du tout, c'est le capitalisme. La question, c'est d'amasser toujours plus de capital. Tu vends de la marchandise, tu as plus d'argent, tu investis, tu as encore plus de marchandises, tu la vends, tu as encore plus d'argent, et ainsi de suite. Cette marchandise, elle peut être utile, inutile, elle peut être de pur divertissement, elle peut être du gadget, elle peut être... Bon, mais ça ne durera pas longtemps. Tu peux avoir des investissements malheureux, tu peux avoir de la spéculation financière. Mais tout ça ne compte pas. Ce qui compte, en fin de compte, c'est de fabriquer les moyens de la puissance. Sinon, ça ne tient pas. Ton entreprise ne tient pas, ton pays ne tient pas. Donc, quand les gens du gouvernement québécois choisissent de développer l'hydroélectricité pour s'affirmer en tant que pays, ils font un calcul juste de leur point de vue. C'est soit vous faites ça, soit vous disparaissez au sein du Canada et vous êtes noyé et vous restez dans vos fermes. Et peu à peu, vous perdez votre langue et tout. Bon. Donc, eux, ils font ce choix-là. Et comment font-ils ce choix-là? Bon, je connais un petit peu l'histoire du Québec, mais pour te dire chez nous comment ça s'est passé, tu as donc ce cycle industrie, recherche, pouvoir public qui ne cesse de s'emballer. À Grenoble, on a fondé dans les années 60 la première des technopoles, ce qu'on a appelé les technopoles, sur ce modèle-là. C'est-à-dire, tu es une université focalisée sur les sciences et techniques, et tu as un vase d'expansion qu'on appelait à l'époque la ZIRST, la zone d'innovation et de recherche scientifique industrielle, où tous les types qui font une trouvaille, tous les ingénieurs qui font une trouvaille, vont s'installer, on leur donne de l'argent et ils fondent leur boîte. Le commissariat à l'énergie atomique a fondé en son sein une entité qui s'appelle le LETI. C'est un laboratoire particulier dont je te développe pas l'acronyme parce que ça a changé plusieurs fois de signification, mais qui est voué à la science appliquée et à ce qu'ils appellent l'innovation, c'est-à-dire la science pour l'industrie, l'industrie pour la production. Et les pouvoirs publics ne cessent, alors à tous les échelons, hein, pouvoirs publics, la ville de Grenoble, la communauté d'agglomération, c'est-à-dire toutes les petites communes aussi autour de Grenoble regroupées, le département, la région, l'État, et même maintenant l'Europe, sont toujours en train de donner de l'argent pour créer des industries et pour abonder à la recherche. Pour te donner un exemple concret, nous avons chez nous la plus grosse boîte de production de puces, de semi-conducteurs, de chips, je crois, ST Microelectronics. ST Microelectronics, c'est un essaimage, une start-up du commissariat à l'énergie atomique. Bon, c'est une entreprise ils ont fait une fonderie de puces non loin de Grenoble grâce à l'eau. Ça a été l'investissement le plus coûteux en France depuis les centrales nucléaires. Ça a été 3 millions d'euros.
Non, milliards.
3 milliards d'euros, pardon. 3 milliards d'euros. Et on prévoit que d'ici 2 ans, au total, ça aura coûté 8 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de semi-conducteurs. Pourquoi on a besoin de semi-conducteurs ? Parce que notre monde, ton casque, ton téléphone portable, ton smartphone, ta voiture, tout marche avec des semi-conducteurs. Tout. Sans les semi-conducteurs, sans le silicium, le monde tel qu'on le connaît s'arrête. Donc voilà, nous, on est un des endroits où se fabrique ce monde de la machine que nous subissons, ce monde de la méga-machine. Ça, localement, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question précisément. Mais...
Mm-hmm. Ben, en fait, je pense qu'on va pouvoir continuer un peu sur tout ça. Puis c'est intéressant parce que nous, au Québec, ce qu'on voit apparaître présentement, c'est ce qu'on appelle les zones d'innovation, en fait, qui sont des lieux d'implantation de l'industrie 4.0 en lien avec des groupes de recherche, donc évidemment beaucoup de fonds publics. Donc on voit effectivement ces manifestations-là présentement. Et donc, il nous apparaît quand même essentiel dans ce contexte, puis à la lumière un peu de ce que vous dites, là, de voir la notion de progrès autrement que sous l'angle de l'imaginaire commun, selon lequel ça serait une force linéaire immuable menant au confort matériel, au bien-être humain, voire à l'émancipation, hein, comme on peut le voir notamment avec ce que vous disiez par rapport au Québec. Pourtant, c'est cette conception linéaire du temps qui domine majoritairement l'imaginaire occidental. Mais quels sont, selon vous, les pièges que nous tendent cette idée de progrès et en quoi est-ce une fausse représentation de la liberté?
Bon, cette idée de progrès, chacun s'accorde à reconnaître, je ne sais pas si on y est pour quelque chose, nous autres, mais que depuis quelques années, elle a quand même, elle a pâli, son image a pâli. Je sais pas, je pense que c'est pareil chez vous, mais les politiques, les experts ne cessent de se dire que les gens ne croient plus dans le progrès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fini par comprendre, alors à un moment où ça devient difficile de l'ignorer finalement, mais que le progrès technologique n'était pas synonyme de progrès social et humain. Mais plutôt même à y regarder de plus près que plus ça allait et plus il devenait l'inverse. Parce que, effectivement, cette idée de progrès, quand on parle de progrès aujourd'hui, en fait, on parle de progrès technologique. Et rien d'autre, finalement. Bon. Mais à un moment d'accélération, d'emballement même, on pourrait dire, parce qu'on a à peine le temps de s'habituer au téléphone portable qu'il faut déjà passer au smartphone, on a à peine le temps de s'habituer à Internet, aux réseaux sociaux qu'il faut passer au métaverse, et ainsi de suite, l'emballement finit par causer un certain trouble, en tout cas chez une partie de la population. Il y a une partie de la population qui, même si elle pense qu'on ne peut pas vivre contre son temps, qu'il faut bien vivre avec son temps et qu'on n'arrête pas le progrès, de plus en plus, quand elle le dit, c'est pas forcément pour s'en réjouir. Enfin, nous, c'est ce qu'on constate un peu, parce que elle sent des effets, pas forcément toujours clairement identifiés, analysés, mais de pression, d'accélération, on a inventé ce mot de burn-out pour marquer ce nouveau progrès, finalement. Hein. Il est né là, ce mot. Et à plein d'endroits de la vie sociale ou du travail, et ainsi de suite, et comment être du rapport aussi aux institutions, et ainsi de suite, les gens disent, mais en fait, il y en a marre. Ici, on a une institution qui s'appelle le Médiateur de la République, qui est en quelque sorte une chambre d'enregistrement des difficultés qu'ont les citoyens dans les relations avec les institutions. Et il avait produit un rapport il y a déjà quelques années en disant les gens souffrent de ce qu'on appelle le syndrome tapé étoile. Tu sais, quand tu téléphones, que tu essayes d'avoir un renseignement quelque part ou simplement faire une démarche, et tu tombes que sur des machines, tapé 1, tapé 2, tapé étoile. Et ça finit par générer un trouble individuel et collectif, quoi, social. Bon. Donc, tout ça pour dire que si tu rajoutes là-dessus quelques catastrophes industrielles et le fait que l'effondrement écologique maintenant n'est plus, on peut plus le nier, il s'est fait jour au moins un certain doute sur cette question du progrès technologique. Mais encore une fois, c'est une partie de la population qui va l'exprimer clairement. Le reste, la majorité de la population pense quand même qu'il faut vivre avec son temps et fait beaucoup d'efforts pour y arriver, c'est-à-dire pour sans cesse se mettre à jour, courir derrière et ne pas rater la prochaine marche, quoi.
C'est
un peu ce que vous appelez la société de contrainte, en fait. D'après ce que je comprends, selon vous, on serait passé d'une société de contrôle à une société de surveillance, et pour passer ensuite à une société de contrainte où on est forcé de, même contre notre gré, de toujours vouloir rattraper la situation technologique qui dirige l'état du monde, en fait.
Non, ça en fait partie, mais ce n'est pas exactement ça. Mais pour finir sur le progrès, si tu veux. Le progrès, à l'origine, c'est un mot neutre. Ce n'est pas connoté ni positivement, ni négativement. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui va de l'avant. Mais tu peux avoir aussi bien un progrès de la maladie. Et ce n'est pas un progrès que tu souhaites. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la signification du mot a été réduite et concentrée sur le progrès machinique, technologique. Et les progressistes ont réussi à vendre l'idée que le progrès humain était indexé sur le progrès technologique. Plus on progresse technologiquement, et mieux ça vaut pour l'humanité. Bon, les marxistes en particulier, les communistes, ont été complètement fétichistes dans cette direction-là. Enfin, et ils le continuent d'ailleurs. Les communistes en France sont pro-nucléaire. Bon, on va être sauvé par la machine, on va être sauvé par l'industrie, on épargne la peine des hommes, etc. Et tu arrives à un moment où tu te demandes à quoi ça sert de vivre, à quoi bon vivre, puisque les machines le font tellement mieux que nous. Mais en réalité, les machines ne vivent pas, elles fonctionnent. Et quand tu machinises les hommes, quand tu machines les hommes, tu les empêches de vivre et tu les réduis à l'état de machin dans la machine et à l'incarcération de l'homme-machine dans le monde-machine. C'est ça qui se passe et dont les gens prennent confusément conscience. Maintenant, pour revenir à ta question suivante sur qu'est-ce que c'est que la société de contrainte, bon, nous, ce qu'on a, on a essayé de décortiquer un petit peu trois étapes, disons, très pragmatiquement, très empiriquement, hein, on n'est pas des théoriciens, bon, mais on a essayé de comprendre ce que signifiaient les mots. Qu'est-ce que c'est que le contrôle ? Bon, le contrôle en France, ça naît avec le rôle, le rouleau. D'un côté, tu as des noms, de l'autre côté, tu as des, bah, le rouleau des soldats où tu fais l'appel. C'est le roll call en anglais. Hein ? Tu fais l'appel. Donc, ça marche pour les soldats, ça marche pour les prisonniers, ça marche pour les impôts. C'est-à-dire qu'un contrôle, c'est juste un rôle. Il y a une liste de noms d'un côté. Et d'autre côté, il est là ou il n'est pas là. Il a payé ou il n'a pas payé. Il a fait... C'est ça le contrôle. Alors, avec le progrès technologique, le contrôle s'améliore. Maintenant, tu as des fichiers ordinateurs. Il y a 10 ans, 15 ans, le Centre national de recherche scientifique évaluait à 600 fichiers par personne, enfin, que chaque personne figurait dans 600 fichiers environ. Bon. Donc, tu imagines, si tu connectes tous ces fichiers, si tu fais interconnexion, tu es complètement transparent, toi, tu es complètement transparent dans le regard d'un pouvoir qui est complètement opaque. Bon, c'est ça le contrôle. Si tu ajoutes au contrôle, et alors pour nous, une grande étape dans l'histoire du contrôle en France, c'est l'instauration en 1940 du numéro d'inscription au répertoire. C'est-à-dire que la France est occupée et tu as un polytechnicien qui s'appelle Carmé, qui décide au nez et à la barbe de l'occupant de reconstituer l'armée française. Et pour ça, il fiche tous les Français. Ça s'appelle le numéro d'inscription au répertoire, de façon à pouvoir reconstituer l'armée. Et ça se fait avec l'accord des Allemands, parce que les Allemands se disent que c'est comme ça aussi qu'ils vont repérer les Juifs. Bon, et les dissidents. Ce numéro d'inscription au répertoire, il est conservé à la Libération. Et ça devient la base de la sécurité sociale. Aujourd'hui, mon numéro d'inscription répertoire, c'est mon numéro de sécurité sociale. Nous en avons tous un. Le mien, c'est 1-54-05, etc., etc. Je connais par cœur. Bon. Donc, tu as là la base, comment dire, du pouvoir numérique, des statistiques de masse. Si tu rajoutes des ordinateurs, etc., bon, c'est bon. Maintenant, tu as la surveillance. La surveillance, tu vois bien ce que c'est veiller sur, c'est écouter, c'est voir. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Maintenant, il y a des caméras partout. Et ces caméras, elles sont reliées entre elles. Et il y a des capteurs partout. Donc, le monde entier est, pour employer un anglicisme, monitoré. Monitoré et relié par la connexion informatique. Et enfin, tu as la troisième couche, qui est la contrainte. Et cette contrainte, elle s'exerce au niveau, je dirais, macro-social et au niveau micro-individuel. Qu'est-ce que nous entendons par contrainte ? Bon, bah là encore, on a été ouvert le mot, hein, un peu comme on casse une noix pour voir ce qu'il y avait dedans. Bon, ça vient du latin, évidemment, stringere, resserrer, serrer, resserrer. C'est le filet, c'est pour... Pense à la constriction, le boa constrictor, par exemple. Ça, c'est la contrainte. C'est le filet informatique, le net, le web. Bon. Grâce à ce filet, tu arrives à contraindre la population dans son ensemble à faire des choses ou à ne pas faire des choses. On pourrait te donner des exemples concrets, mais j'essaie de presser le pas. Et ça peut se faire aussi au niveau individuel. On a à Grenoble un laboratoire qui s'appelle Clinatech. Ce laboratoire, c'est un laboratoire mixte de Minatech, le laboratoire de micro-nanotechnologie, et de l'hôpital régional, du centre hospitalier universitaire. Et le but de ce laboratoire, suivant ses propres dires, c'est de mettre des nanos dans la tête. C'est comme ça qu'ils le disent. C'est-à-dire des implants. Et ces implants servent à modifier ton comportement. Par exemple, tu as du mal à arrêter de fumer, on va t'envoyer des châtaignes dans la tête, aux bons endroits, pour soigner ton addiction. Ça marche pour la boulimie, ça marche pour l'anorexie, ils essaient de, que ça marche pour les crises de, comment on dit, de
les tocs.
Les tocs, ça marche pour le Parkinson. Le type qui dirige ce laboratoire postule tous les ans au prix Nobel, peut-être qu'un jour il l'aura. Bon. Mais ce que tu vois à l'œuvre, c'est une tentative machinique de modifier ton comportement, de te contraindre au niveau individuel. Bon, au niveau collectif, par exemple, tu prends le métro de Londres, on avait vu un film très intéressant où on montrait comment, en réglant la vitesse des portillons, des machines à donner des tickets et tout un tas d'autres dispositifs, on pouvait réguler le flot des voyageurs, obliger les gens à aller plus vite ou à aller moins vite. Et on pourrait multiplier les exemples, enfin, on en connaît plein. Et donc, ça permet petit à petit de saisir à la fois la société dans son ensemble et l'individu en particulier pour leur faire faire des choses dont ils n'ont pas forcément conscience, mais qui sont quand même forcés d'accomplir.
Juste, hein, si je peux me permettre, pour finir sur ce chapitre, en fait, si les terriens, enfin qui maintenant, nous on les appelle des smartiens, parce qu'ils habitent sur la smart planète, mais ils ont tous leur smartphone à la main, à peu près, ils sont reliés donc à des centres à des réseaux de communication, et puis il y a des flux de données, hein, c'est ça la nouvelle économie. Et en fait, nous, la plupart des gens pensent au contrôle et à la surveillance parce qu'ils ne pensent qu'au flux de données ascendant, c'est-à-dire ce qui part de ton smartphone et qui va vers le collecteur de données. Ça peut être le pouvoir, ça peut être l'industrie, ça peut être Facebook, ce que tu veux. Et effectivement, en collectant tes données à toi, ils peuvent contrôler, surveiller. Mais ce qu'on oublie, c'est que le flux de données, il va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que tu peux, sur ton smartphone, recevoir des données, des informations. La plupart des gens trouvent ça très pratique, mais que c'est un moyen de contrainte. C'est-à-dire que, et quand on parle de contrainte, on ne parle pas de coercition, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te forcer, de te torturer, mais simplement, on va modifier ton comportement parce qu'on va t'envoyer des influx nerveux, en quelque sorte, des données qui vont modifier. Typiquement, tu ne vas plus jamais choisir toi-même ton chemin quand tu vas quelque part, mais tu vas obéir au GPS. Ou bien tu vas suivre les recommandations des algorithmes. Ou bien, en France, en ce moment, tu dois, pour entrer dans les lieux publics, culturels, sportifs, il faut que ta machine envoie une impulsion qui dit oui ou non. Le QR code, il dit c'est vert, tu as le droit d'entrer, c'est rouge, tu n'as pas le droit. Et donc, par ta connexion au système général, par l'interface universelle qui est devenue smartphone, eh bien, ta vie est orientée. Tu as le droit de faire ça, tu ne peux pas. Ou bien, tu choisis de le faire, mais ce n'est pas toi qui choisis, c'est ta machine qui choisit, en fait.
Et on pourra peut-être voir, on va prendre une courte pause et on pourra peut-être voir ensuite comment canaliser peut-être d'autres formes de désir et comment arriver à se délier de cette emprise-là, en fait, qui est effectivement assez omnisciente. Donc, pièce et main-d'œuvre, merci. On est de retour tout de suite après la pause. Donc, on est de retour après cette chanson de Richard Desjardins. On a parlé avec pièces et main-d'œuvre au début de la pause, avant la pause, pardon, de la manière dont se déployait effectivement cette méga machine techno-industrielle et peut-être la manière dont elle exerçait une emprise sur nos vies et sur nos existences. On comprend aussi que la pandémie aura été une occasion de mettre en place des dispositifs qu'on aurait, en d'autres circonstances, jugés socialement ou moralement inacceptables. On voit un peu partout se déployer les villes soi-disant intelligentes et les réseaux 5G qui permettent d'accélérer la gestion des flux de données. Et on tente à peu près par tous les moyens là, d'étouffer le débat public en ridiculisant les opposants de la techno-industrie, en les traitant de complotistes et de amish, pour reprendre l'exemple de Macron, ou en évitant simplement de parler de cette mouvance techno-industrielle en cours. Hein, au Québec, c'est le silence total. Mais comment, concrètement, pièces et main-d'œuvre, on peut résister à cette industrie 4.0?
Bon, nous, on a tout tenté. Hein. Enfin, localement, moi, j'ai fait partie de la première vague du mouvement anti-nucléaire. On a perdu. La France est le pays le plus nucléarisé du monde. On a essayé au début des années 2000, on a fédéré fugitivement une opposition aux nanotechnologies. On a fait la seule manifestation anti-nano au monde à Grenoble. Il y avait plus de 1000 personnes, dont des gars de chez vous d'ailleurs, des gens de ETC Group. Comment ils s'appelaient ? Enfin, peu importe. ETC Group, c'est chez vous, ils sont très bien. Mm-hmm. Mais bon, on a été battus. On a été battus comme sont battus en général les ennemis du progrès. Et c'est un petit peu normal parce que, enfin, c'est un petit peu normal. Je crains de vous décevoir et de paraître défaitiste en disant ça, mais bon. Depuis les premières sociétés connues, c'est-à-dire les sociétés de chasseurs-cueilleurs, puis les sociétés paysannes, puis les sociétés industrielles, etc. Bon, il y a toujours eu des gens qui refusaient la volonté de puissance et la recherche de puissance. Et ces gens ont toujours été battus. Il y a toujours eu des gens qui étaient des ennemis du progrès, qui traînaient des pieds ou qui s'y opposaient franchement. Ou... Bon. Mais ils sont battus. Et ils sont battus pourquoi ? Ben, c'est bien normal, parce que les autres acquièrent de la puissance. Et comme ils acquièrent de la puissance, ils acquièrent les moyens d'écraser aussi leurs opposants. Si vous prenez le 19e siècle, par exemple, en Amérique, j'avais lu que les Cherokees, les Indiens Cherokees, à un moment donné, s'étaient sédentarisés, avaient fondé une ville, avaient fondé un journal, fait un parlement, et ainsi de suite. Bon, pour pouvoir résister à l'homme blanc. Mais quand tu fais ça, tu te transformes en homme blanc. Donc tu perds. Et c'est un petit peu notre histoire. C'est-à-dire que soit on utilise les moyens de l'ennemi, les moyens supérieurs de l'ennemi, et on devient l'ennemi que l'on combat, soit on refuse de les employer et on est battu par la puissance de l'ennemi. La seule solution, ce serait que la conscience du désastre soit en avance sur le désastre lui-même. Or, ça n'arrive jamais. La conscience arrive toujours après la catastrophe, jamais avant. Nous n'avons jamais trouvé le secret d'apprendre à penser au poisson avant qu'il soit dans la poêle. Les gens apprennent quand c'est trop tard. Bon. Donc, il faudrait qu'on parvienne à produire une masse de conscience et lui faire franchir un seuil critique de façon à ce que les sociétés dans leur ensemble renoncent à la puissance. C'est pas seulement d'être dans la décroissance, c'est d'être dans la dépuissance, de renoncer à la puissance. On n'est pas parti pour ça. C'est pas du tout ça dont il est question. Donc, qu'est-ce que peuvent faire des gens comme nous ? Ils peuvent faire tout ce qu'ils font déjà. Il y a ceux qui préfèrent retourner à la terre ou faire des îlots de résistance locaux. Il y a ceux qui préfèrent faire de l'opposition politique. Parmi ceux qui préfèrent faire de l'opposition politique, il y en a qui sont pour l'illégalisme, il y en a qui sont pour l'illégalisme, il y en a qui sont pour jouer des deux. Nous, on a fait un peu de tout. Enfin, moi, j'ai fait un peu de tout au travers de ma vie. En ce moment, mon problème, c'est la conclusion, si tu veux, à laquelle on est arrivé. La vraie conclusion à laquelle on est arrivé, c'était que la technologie et les technocrates n'avaient qu'une seule idée, c'était toujours plus de technologie. Et nous, nous n'avons qu'une seule technologie, c'est toujours plus d'idées. Donc nous devons travailler à produire des idées et à produire des producteurs d'idées. Et c'est pour ça que nous faisons de l'enquête et que nous essayons de former des enquêteurs, avec l'idée que peut-être... c'est ce qu'on fait tous les mouvements de conscience, mais que peut-être la conscience va devenir virale. Une idée qui s'empare de toutes les cervelles, une idée qui s'empare de toutes les têtes, devient une force matérielle, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des idées horribles et des idées très bien. Bon, nous combattons pour des idées, nous combattons pour produire des idées, et nous ne connaissons pas d'autres solutions. Quant à à imaginer un avenir meilleur, c'est au-dessus de mes forces.
Mais justement, la difficulté dans laquelle on est au stade actuel de la technologie, c'est que justement, ces nouvelles technologies, l'environnement cybernétique, hein, disons le numérique, à quoi s'attaque-t-il en premier ? Il s'attaque justement à l'imaginaire et plus profondément aux capacités cognitives directement. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de l'enquête, il faut quand même avoir conservé un peu des capacités de réflexion, de concentration, de mémoire, d'analyse, de questionnement, d'expression. Toutes choses dont les enseignants en ce moment se plaignent qu'elles ont tendance à disparaître parce que on a recours au numérique pour remplir ses fonctions, quoi. Donc c'est pour ça que nous critiquons l'usage du numérique partout, parce que d'abord il s'attaque à nos cerveaux, et s'il s'attaque à nos cerveaux, ça va être compliqué de continuer à fabriquer des idées, à produire des idées, à les répandre, et puis à exercer. Alors je parle même pas d'esprit critique, parce que ce qui nous frappe, on parlait d'imaginaire, ce qui nous frappe, c'est que l'imaginaire dominant chez la masse de la population, ça consiste à dire je suis content d'être pris en charge par la machine. Et l'argument principal, c'est toujours que c'est bien pratique. Donc, si vous arrivez à trouver, si nous arrivons ensemble, ou les uns les autres, à trouver un moyen de lutter contre cette idéologie du plus pratique, de cette idée qu'au fond, on serait parti, en gros, des Grecs anciens qui ont inventé la philosophie, le théâtre, et des tas de choses qui ont perfusé jusqu'à nous, pour en arriver, après toute cette évolution-là, à se satisfaire d'un truc qui est plus pratique. Je trouve qu'il n'y a pas de progrès, là. On parlait de progrès tout à l'heure. Ça pourrait se questionner à ce niveau-là. Donc, il faut arriver, en effet, à s'opposer. Mais ça veut dire s'opposer à qui ? Ça veut dire s'opposer à nos contemporains, à nos familles, à nos voisins.
À nous-mêmes.
À nous-mêmes aussi, souvent, sur l'idée que ce qu'on veut, ce n'est pas que ça soit plus pratique. C'est que ça soit plus humain, éventuellement. Et donc, ça veut dire que être humain, ça demande de faire des efforts. Ça demande un effort. Et il faut arrêter de plus vouloir faire d'efforts, au contraire, mais se dire que il faut bosser, quoi, et puis c'est tout.
Enfin, on avait dit à un moment donné, on avait résumé ça en disant la zone à défendre prioritaire, enfin nos cerveaux sont la zone à défendre prioritaire, la ZAD prioritaire à défendre. Et si tu ne te sers pas de ton cerveau, si tu ne te sers pas de ton corps, eh ben, tu deviens une patate de canapé et tu restes devant ta télé. Et tu risques toutes les maladies et ton corps s'affaiblit. Si tu ne te sers pas de ton cerveau, eh ben, la même chose arrive. Donc, encore une fois, il s'agit de continuer à vivre, de continuer à penser, de s'acharner à penser, alors que tout est fait pour te dire non, mais tout ça, c'est des efforts, c'est bien fatigant, alors que c'est tellement simple d'appuyer sur un bouton.
Bon, et dans la vie quotidienne, en ce qui nous concerne, ça, nous, on essayait de répandre l'idée qu'il fallait vivre contre son temps, ce qui, pour le coup, demande un gros effort. Parce que vivre contre son temps, c'est pas seulement vivre contre, je sais pas, les grands méchants, les GAFAM, et ainsi de suite. C'est vivre contre tous les usagers et les clients de ces gens-là, c'est-à-dire nos contemporains. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le fait que, malgré tout, les humains restent des animaux mimétiques. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche si bien. Les technologies se répandent là-dessus. Mais nous, c'est la même chose qui nous intéresse. C'est-à-dire que peut-être que le fait que certains montrent des exemples, c'est-à-dire montrer l'exemple, ben, oui, c'est possible, c'est dur, mais c'est possible de vivre sans téléphone ou des choses comme ça, ou de vivre dans une cabane sans électricité, comme on a des copains qui font. C'est possible et ça va bien, enfin, on s'en sort. Peut-être que c'est des exemples à répandre pour donner envie à d'autres. Simplement faire admettre l'idée que ça existe, c'est possible, et ensuite peut-être donner envie à d'autres d'imiter et de jouer sur ce mimétisme qui reste quand même le fondement de l'animal humain.
tout à fait. Et peut-être que ça ouvre aussi d'autres réflexions à savoir comment dans les technopoles, on pourrait effectivement s'attaquer concrètement à ces infrastructures-là, que ce soit par sabotage, occupation, etc. Mais peut-être qu'on n'a pas nécessairement à souhaiter ou à attendre en fait que tout le monde embarque, mais que peut-être des groupes commencent à se mettre en action, donc à vivre justement. Et malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour cet échange. Donc, merci beaucoup, pièces et main-d'œuvre. On peut vous lire, en fait, on peut lire vos enquêtes sur le www.piecesetmaindoeuvre.com. C'est bien ça?
C'est bien ça.
C'est ça, et on encourage aussi beaucoup les gens à lire sur papier, parce qu'on a un site internet, mais ça ne nous fait pas plaisir. donc voilà, si vous arrivez à trouver du papier, on a des bouquins qui sont disponibles en librairie au Québec, on peut les demander à son libraire de se renseigner. On aimerait mieux ça.
Parfait, ben, merci beaucoup pour votre temps et au plaisir de continuer à vous lire puis à nous nourrir de ces réflexions-là, et peut-être à arriver à nous délier de cette emprise qui est très étouffante. Donc, merci beaucoup, pièce et main-d'œuvre.
Merci à vous.
C'est donc ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois à pièce et main-d'œuvre d'avoir été parmi nous. Merci à TP également d'avoir co-animé cette émission. On en profite également avant de se laisser pour vous rappeler peut-être un événement assez important au Canada qui a lieu en ce moment. Le 18 novembre dernier, les agents de la GRC ont pénétré sur le territoire ancestral des Wet'suwet'en, donc le Yinta, et ont arrêté les gardiens de la forêt pour favoriser la poursuite des travaux du projet de pipeline Coastal GasLink. L'État colonial canadien a donc décidé, au moment même où frappent des inondations sans précédent en Colombie-Britannique, que des populations en détresse requièrent de l'aide. D'aider les entreprises écocides à poursuivre leurs projets extractivistes sur des territoires, évidemment, qui n'ont jamais été cédés à l'État. Donc, face à cette violence de l'État colonial, des membres de la nation Wet'suwet'en ont lancé un appel de solidarité partout à travers le soi-disant Canada pour que toutes les communautés joignent leurs forces et organisent des rassemblements locaux et des blocages. Donc, on parle de routes, de voies ferrées, de ponts, etc. L'invitation est lancée. Et pour en savoir plus sur la lutte des Wet'suwet'en, nous vous invitons à voir le www.yintaaccess.com. Donc, c'est le yintaaccess.com. Ou encore suivre la page Facebook du Gidimten Checkpoint. Donc, GIDIMTEN. Gidimten Checkpoint. Et à Montréal se tiendra, donc en réponse à cet appel, un rassemblement donc le 27 novembre à 14h au coin Dorchester et Green, donc au métro Atwater. Et à Québec, un rassemblement similaire de solidarité prendra également place le 1er décembre à midi à la place Limoiloise dans Limoilou. Donc, c'est un rendez-vous. Soyons nombreux et montrons effectivement notre solidarité aux gardiens de la Terre qui protègent depuis des millénaires les territoires ancestraux et les forêts. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Donc, merci à pièces et main-d'œuvre. Merci TP. Vous pourrez écouter l'émission en rediffusion donc vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Également, il est possible d'écouter le tout en balado via le www.contrepointmedia ou via le encore.fm. On vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine.